BFM Bourse, le club de la bourse.
Nos invités du jour, Alain Dubrulle de Claresco, bonjour.
Bonjour Antoine.
Et Louis de Fels de Gay-Lussac Gestion, bonjour.
Bonjour Antoine.
Bon, un marché qui globalement n'est pas très décidé, mais enfin rien de grave, hein. On perd 0,23%, 8189 points pour le CAC 40. On est à peu près stable sur l'ensemble de la semaine, on fait un petit peu de yo-yo. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette fois, ça y est, la poussière est retombée, qu'on a, mais alors, complètement mis de côté la géopolitique, du moins dans les cours, et qu'on dit, ok, on va les laisser mettre le couvercle sur la marmite, et pendant ce temps-là, on va s'attaquer au vrai sujet. Semi-conducteurs, défense, on a pu voir l'automobile qui commençait à bouger les lignes hier. Alain Dubrulle, on va peut-être commencer avec vous. Est-ce que vous pensez justement que c'est ces secteurs qui commencent à reprendre le pouvoir sur le knee-jerk, les réactions épidermiques liées à la géopolitique, et que là, c'est peut-être un mouvement durable?
Durable, je ne sais pas. En tout cas, oui, le marché commence à être un petit peu agacé ou fatigué de ces nouvelles à répétition qui n'en sont pas, sachant que pour l'instant, le détroit d'Hormuz est et reste fermé. Donc là, on a vu dans l'après-midi, il y avait une nouvelle qu'apparemment, il y aura un plan qui serait prêt à être signé si Trump l'approuvait. Bon, je crois plutôt la vraie question, c'est si un jour, il y a un truc qui est signé, qui a l'air à peu près crédible, c'est qu'est-ce qui va se passer après? Parce qu'on a des marchés qui sont au plus haut, on a des thématiques type semi-conducteurs et défense, en fait, qui sont celles qui ont marché, mais qui continuent de marcher encore. Et peut-être la question, c'est qu'est-ce qui va se passer après? C'est-ce que, quelque part, on achète au son du canon, et puis après, on vend le jour de la paix?
Ouais.
Les marchés sont price for perfection, comme on dit en anglais. Et donc là, je dirais, je ferais faire attention. Alors typiquement, on est quand même sur des niveaux élevés. On a eu de très belles publications de résultats avec un momentum de résultats qui est pour l'instant très bon. Donc les prochaines étapes, c'est quoi? C'est quand même peut-être un ralentissement économique lié malgré tout à cette hausse de l'énergie, à ces pénuries de matières premières qui vont pas se résoudre en un jour, même si le détroit est réouvert. Et d'autre part, des thématiques défense, mais surtout semi, qui commencent à aller loin. Alors c'est vrai que l'IA avance, etc. Mais justement, ce qu'on voit typiquement sur des STM, sur des Soitec, etc., c'est que maintenant, c'est plus la première division qui monte, c'est plus la deuxième division, c'est la troisième division. Si on peut faire une hiérarchie entre les valeurs.
Oui.
Et quand on voit des sociétés comme X-Fab, qui publient des résultats plutôt assez décevants depuis de nombreux trimestres, et on ne peut pas en dire plus de Soitec, parce que même les résultats de ce matin étaient plutôt faible.
Et oui,
ils ont précisé que la division qui fait rêver tout le monde, qui fait aujourd'hui 15-20% du chiffre d'affaires, oui, ça va se développer, bien sûr, mais qu'ils ont quand même des limitations de capacité, donc ça va pas pouvoir aller. Ils vont réallouer un peu, mais globalement, elle va pas se transformer du jour au lendemain en un truc qui va faire x5 en chiffre d'affaires, alors que le reste reste toujours compliqué, qu'il y a des économies d'échelle. Enfin, sur Soitec, non, les multiples n'ont plus beaucoup de sens à ce stade, mais
c'est plus que du côté de Wall Street.
Plus de 11 fois les résultats, 11 fois le chiffre d'affaires, alors qu'il y a 80% du chiffre d'affaires qui est franchement pas terrible. Donc, ça veut dire que si on oublie à la limite le pas terrible, ça veut dire qu'elle se paye 50 à 100 fois le bon chiffre d'affaires. Même dans la tech, on a rarement vu des niveaux à ce niveau. Voilà, donc j'ai un petit peu peur des effets de troisième tour où effectivement les Américains, les grosses valeurs Nvidia et autres sont plutôt en mode de-rating. Il y a eu beaucoup de mid-cap américaines qui ont monté sur ces thématiques. Puis maintenant, on cherche les dernières qui n'ont pas monté. Alors ça profite à court terme, mais peut-être que c'est peut-être un signe de bulle dans ce domaine. C'est quand on va chercher les plus mauvais qui montent quand même. C'est là qu'il faut peut-être commencer à être prudent.
Louis de Fels, votre truc en plus, c'est les small et mid cap, hein, c'est un peu votre terrain de chasse. Et on a vu certains secteurs changer complètement de dimension cette année. Alors je pense évidemment à certaines valeurs de la santé, certaines valeurs de la défense, mais tout ce qui est semi-conducteur, ça a vraiment été un driver étonnant et ça continue à l'être.
Étonnant, ça qu'Alain l'a bien dit, c'est qu'il y avait aussi une note du BS qui disait que l'IA, la thématique de l'IA était deux fois supérieure à la géopolitique et le problème de l'Iran. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu les chiffres stratosphériques du S&P sur le premier trimestre, plus 26%, c'est incroyable, même s'il y avait un peu de mark-to-market, vous savez, avec les revalorisations d'Anthropic ou de Pania, avec des valorisations phares. Il y a un très très bon momentum aux États-Unis avec toutes ces IPO et notamment SpaceX. Donc SpaceX a donné... tout le secteur s'est envolé, notamment Eutelsat, dont on parlait, il y a les Soitec, ça, qu'il y a toutes ces valeurs, on va dire, de piètre qualité. C'est ça ce qui est très difficile pour nous en tant que géants small limit cap. C'est vraiment la dérivée troisième qui arrive, les mauvais élèves qui sont en train de repartir très fortement. Eutelsat, plus personne n'en voulait depuis très longtemps. Soitec, c'était vraiment catastrophique les résultats. Ils ont encore annoncé des pertes énorme, tout ça, parce qu'en effet, on en parlait, voilà, ils sont dans la photonique. Voilà, donc si vous voulez être dans la photonique, donc il y a une très belle société anglaise qui s'appelle Alma, voilà, qui est passée quasiment de 5%, quasiment 20-25% de son chiffre d'affaires dedans, mais qui fait beaucoup de mal. Donc voilà, nous, on préfère beaucoup plus ces sociétés de qualité. Mais voilà, ce qui est impressionnant, c'est la thématique IA est tellement forte. Vous avez vu, les capex de tous les hyperscalers ont été beaucoup plus forts, ne font que d'être révisés là-haut. C'est surtout pour les premières indications pour 2027, c'est encore en hausse. Donc, moins fort que cette année. Cette année, c'est quand même plus de 80% de hausse, hein, quand même, les capex des hyperscalers. Ça sera jusqu'à plus de 800 milliards l'année prochaine, c'est juste stratosphérique. Et voilà, et c'est vrai que tout cet argent va commencer à arriver un peu vers l'Europe. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de valeurs en Europe qui commencent à en bénéficier, qui vont commencer à gagner des contrats. Donc voilà, l'Europe, c'est vrai qu'on n'a pas les 5-7 magnifiques, mais on a encore pas mal de valeurs. Donc voilà, et sinon, pour revenir aussi sur votre question, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette thématique est très forte, mais si vous enlevez toutes ces valeurs-là, bah, elles font pas grand-chose. Hein. Mmh. Et c'est assez compliqué, parce qu'on a quand même eu pas mal de chiffres de sociétés qui viennent de publier leur premier trimestre, et beaucoup disent oui, le premier trimestre a été encore très bon, mais attention au deuxième, il y a les coûts de fret qui augmentent, il y a les prix de gaz et d'électricité qui sont en train d'augmenter. La plupart de beaucoup d'elles ont été hedgées, donc ça va. Mais voilà, il ne faudrait pas que ça dure non plus trop longtemps.
Bon, mais finalement, est-ce qu'on se retrouve pas dans un double phénomène ? Alors à la fois, du coup, d'hyperconcentration, et là, on rejoint les problèmes des marchés américains, et en même temps, de granularité, c'est-à-dire qu'au milieu de cette hyper-concentration, on a des sociétés qui se ressemblent plus du tout les unes par rapport aux autres et qui n'ont pas du tout les mêmes enjeux.
Il faut être assez sélectif. Ouais. C'est bien la question. Soitec, par exemple, on parlait il y a quelques semaines d'Extron, qui est une société allemande. Aujourd'hui, la photonique a un pourcentage plus élevé de son chiffre d'affaires que Soitec. Elle a un carnet de commandes qui est en vraie progression. Ils ont été très précis là-dessus, alors que Soitec ne l'est pas. Et typiquement, dans les deux cas, les valorisations sont assez élevées, mais peut-être que il y en a un côté où on a une croissance démontrée, alors que de l'autre, ça l'est moins. Mmh. Et puis, dans les signaux de bulle, ou en tout cas les points d'attention, c'est que, comme Louis l'a signalé, il y a les valorisations théoriques de SpaceX, on parle de 2 trillions, on parle peut-être d'une cotation d'OpenAI, etc. Il faut faire attention, parce que d'abord, ces sociétés aujourd'hui qui sont potentiellement valorisées très cher, quand elles vont lever ne serait-ce que 50 ou 100 milliards sur une capite je sais pas combien de trillions.
Oui, oui.
C'est quand même de l'argent qui va devenir, c'est quand même des gros montants. Ouais. Donc, il y a un effet de vase communicant. Donc, si SpaceX lève 50 à 100 milliards, il va bien falloir qu'ils viennent de quelque part. Mmh. Donc, il pourrait y avoir des arbitrages, d'une part, et puis OpenAI plus particulièrement. C'est pas gagné, hein, avec Anthropic et les autres. OpenAI, c'est à se demander si ça va marcher. Et donc, si l'IPO d'OpenAI échoue parce qu'ils sont moins bons que les autres, il y a un effet malgré tout, même s'il y en a d'autres qui sont bien meilleurs qu'eux. Ça peut être un détonateur assez négatif sur le marché. Tiens, en fait, ça marche pas. Alors, c'est vrai que si eux ne marchent pas, il y a les autres. Ouais. Mais OpenAI, ils ont fait des commitments colossaux de CapEx vis-à-vis d'NVIDIA et toute la chaîne.
Donc, il va falloir délivrer. Hein.
C'est comme dans le private credit. S'il y en a un qui commence à... En gros, si l'IPO de OpenAI ne se fait pas, c'est un peu une théorie de domino. C'est de dire, ça marche pas. Donc, ils vont pas pouvoir payer tous les... Le carré de commandes qu'ils ont fait, ça va tomber. Et après, c'est la réaction en chaîne.
C'est un écosystème fermé.
Réaction en chaîne qui serait d'ailleurs salutaire parce que là, on monte sans limite. Donc peut-être que ce sera une respiration, ça ne veut pas dire que c'est fini, mais c'est des points d'attention.
Le momentum est tellement fort sur ces valeurs, je ne vois vraiment pas comment SpaceX, OpenAI ou Anthropic seraient des échecs. Je pense qu'en effet, les valos sont beaucoup trop fortes. Je pense que tout le retail américain, le monde entier, a envie d'avoir, ça va rentrer directement quand on a des gros poids dans les indices. Et c'est vrai que pour revenir à ce que tu disais, en effet, je crois qu'on parle de 160 milliards de levée de capitaux. Et c'est vrai qu'il y a une note de Goldman Sachs qui est sortie hier qui disait, mais où est-ce qu'on va les trouver ces 160 milliards? Est-ce que ça aura un impact? En effet, est-ce qu'on va devoir revendre une partie du marché pour le faire? Et bien finalement, Goldman Sachs a fait toute une étude en disant quand Visa s'est introduit en bourse, quand Google s'est introduit en bourse, que c'était des montants pas aussi forts, mais à l'époque tout aussi importants en pourcentage des capitaux à ce moment-là.
Et Goldman Sachs... Avec en plus des entreprises qui n'arrêtaient pas de perdre chroniquement du pognon, comme beaucoup de ces entreprises en ce moment. Mais non, justement, ils remettent les choses en perspective. Et c'était ça qui était intéressant.
Et c'était hyper intéressant. Et Goldman disait que le marché l'avait hyper bien absorbé. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un très très bon momentum. Je pense que tout ça, ça va être bien. Les publications du T2 vont être encore extrêmement bonnes dessus. Donc voilà, c'est vrai que je pense que le momentum va être encore très bon. Donc c'est pour ça que le marché fait des plus hauts. Là, on a vu que Goldman Sachs a encore raisé son target price à 8000 points sur le S&P. Donc ça fait encore un peu de hausse, notamment sur la forte croissance des bénéfices par action. On attend 23% de croissance des bénéfices par action au S&P cette année et encore 17 l'année prochaine. C'est juste phénoménal.
Alors, il y a un mois, on était à 20.
Ouais.
Il y a trois mois, avant la crise iranienne, on était plutôt à 16-17. Donc en fait, il y a des upgrades, même en Europe. Ce qui est fou, c'est qu'on a, pour l'instant, le marché est tiré par une vague de hausse. En fait, les secteurs prometteurs, les gens révisent à la hausse, Et ceux qui devraient souffrir, la consommation, tous ces secteurs-là, pour l'instant, ça tient et les gens ne révisent pas. Donc forcément, mais il y a un moment, peut-être que s'il y en a qui vont très très bien, il y en a d'autres qui vont moins bien. Et il va falloir attendre, être assez vigilant.
Je vous tiens au mot. LDC, c'est pas une histoire de fou.
Oui, mais enfin,
là, on est typiquement dans les secteurs dont vous parliez, dans la consommation, c'était touché par les phénomènes d'inflation, de problèmes d'intrants, d'emballage, etc. Ben, ils arrivent à délivrer.
Oui, merci, c'est bon.
LDC, pour moi, c'est la plus belle société familiale, une des plus belles sociétés familiales françaises. Déjà, ouais. Ils ont quasiment une part de marché considérable sur le poulet, entre la Belle Rouge, ils ont le Coq Gaulois, ils ont plein de marques. Et ce qui est bien fait, c'est que ça profite aussi du downtrading. Il y a beaucoup de Français qui ne peuvent plus acheter du poisson, de la viande, donc ils vont acheter de la viande, le fameux poulet. Et ce qui est bien, c'est que c'est une société donc qui est complètement intégrée, qui est extrêmement bien gérée, qui sait passer le hausse de prix au supermarché. C'est très difficile à le faire, hein, notamment, rappelez-vous, en début janvier, c'est toujours la guerre de prix. On vous menace de retirer dans les étalages. Oui. Voilà, par exemple, une autre société comme Fleury Michon a eu beaucoup de mal avec le hausse de prix, alors qu'LDC, eux, sont vraiment très, très forts. Et surtout, ils sont un peu sur le poulet n'est pas trop impacté par la Chine. C'est ça le problème, parce que les Chinois font du dumping. On l'a vu sur l'automobile, on l'a vu sur Bonduelle, sur le maïs. À un moment, les Chinois, ils avaient trop de maïs, donc ils ont inondé le marché français sur les maïs, donc Bonduelle a fait un énorme warning. Ouais. Et heureusement, le poulet, en France, est sûrement du poulet non congelé. Donc ça, c'est la vraie force, notamment d'LDC. Mais voilà, en tout cas, ils regardent de très très proche les Chinois, même s'il y a des barrières protectrices. Mmh. Ils nous disent que de toute façon, l'Europe, c'est une passoire totale. Donc même si de temps en temps, les premiers quotas sont impactés, eux, ils y vont fort. Et donc, ils surveillent ça très loin. Mais ça, c'est une société qui est extrêmement bien gérée. Très forte visibilité, beaucoup de cash, c'est tout ce qu'on aime chez Gay-Sac Gestion, c'est vraiment la belle société de fonds de portefeuille qui s'en sort très bien en ce moment et qui est très décorrélée de l'IA, etc.
Étonnant, Alain Dubrulle. Alors vous qui avez, en plus, vous savez de quoi vous parlez, vous avez longtemps été un spécialiste de la distribution, c'est vrai qu'LDC, c'est une très belle histoire et puis qui ne s'arrête pas, quoi.
Bah, disons que moi, je regardais depuis longtemps, alors je trouvais que ça manquait un peu momentum, c'est vrai que de temps en temps, il y avait la hausse des prix, des intrants qui leur posaient des problèmes, mais là, c'est vraiment, je l'ai rentré dans le portefeuille de l'année dernière parce que j'ai trouvé que, bon, d'abord, la valorisation était intéressante. Et puis, il y a vraiment c'est une très belle société familiale, belle stratégie, etc. Et là, il y a un momentum particulièrement bon, en effet, parce que j'ai rarement vu une société qui est aussi à l'aise avec les hausses de prix. Enfin, ils expliquent qu'aujourd'hui, ils ont du pricing power, comme on dit.
C'est dingue. Quoi.
Parce qu'ils ont des produits de bonne qualité, parce que il y a un effet substitution, en effet. Les gens mangent plus de poulet, moins de viande rouge, par des questions de coût, hein, tout simplement. Ouais. La concurrence chinoise, c'est vrai que sur le porc, par exemple, c'est parfois le marché du porc est très influencé par ce qui se passe en Chine. C'est pas du tout le cas pour les poulets. Et en fait, sur le marché de la volaille, on a soit les trucs un peu haut de gamme ou corrects, c'est ce que fait LDC, soit d'une production plutôt low cost qui est faite en Ukraine avec d'immenses fermes. Production qu'on retrouve plutôt dans la restauration collective. Par exemple, Master Poulet, enfin, toutes ces polémiques récentes. Mais en revanche, pour le truc que vous achetez, que vous cuisinez vous-même, c'est sûr que là, le poulet français, les gens apprécient. Et en fait, ils expliquaient, c'est qu'ils ont un modèle qui est relativement smart. C'est notamment toute la région de Sablé dans la Sarthe. C'est qu'en fait, c'est un modèle où, en gros, ils ont beaucoup de petits producteurs sous-traitants.
Ouais.
Qui investissent dans un petit hangar, eux leur fournissent les poussins, le grain, etc. Et eux vont finalement exploiter ça comme une franchise. Mmh. Et ils disent que ça marche beaucoup mieux parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est un métier qui demande sur les 3 mois pour élever un poulet. Il y a des moments où il faut vraiment aller au charbon.
Oui.
Et donc, on n'a pas grand chose à faire. Donc ça, quelque part, quelqu'un qui a un autre métier par ailleurs, qui travaille en indépendant, il peut s'y mettre avec son épouse dans les moments chauds. Et puis quand c'est plus calme, il peut avoir une autre activité. Alors que si vous voulez, dans un modèle intensif avec des gens à temps plein, ben là, il faut une ferme en Ukraine avec des millions de poulets et une centaine d'employés, enfin une usine, des choses dont on ne veut pas en France de toute façon.
Ouais.
Donc je trouve qu'ils ont trouvé un modèle assez smart, ils ont des producteurs partenaires assez fidèles, qui est assez résistant et qui en plus joue bien la qualité. Et donc ça, je dirais globalement, croissance régulière, bon pricing power. En plus, c'est une société qui a fait pas mal d'acquisitions en Europe. Et c'est une valorisation plutôt de food manufacturing, c'est-à-dire raisonnable.
Ouais.
Et donc aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est une des rares sociétés dans le food qui s'en sort très bien.
Ouais, ce qui est étonnant. 5,5%, en tout cas, c'était très intéressant.
Et 5,5% était très beau.
De hausse, ouais. 119 € pour le titre LDC. On va faire le point sur la bourse. Là, il y a une grosse douzaine de minutes avant la clôture. -0,27%. On est à 8 185 points. pour le CAC 40, plus 0,68 pour le Euronext Tech Leaders qui surperforme hein, très très largement. Le DAX à Francfort, moins 0,48, moins 0,41 pour l'IBEX à Madrid, moins 0,35 pour l'Eurostoxx 50. Du côté des valeurs qui marchent bien à Paris, c'est clairement la défense qui est en tête avec les semi-conducteurs. Thales, plus 3,26%, 240,80€. STMicro, plus 2,60, on est à 59,44. Airbus, plus 2,34 à 177,78€. La plus forte hausse du SBF 120, elle est pour Soitec qui gagne 23%. On en a beaucoup parlé après les résultats, 189,65€. Le secteur de la défense aussi, les valeurs en ex, les Exail, plus 11,6%, 145,10. Exosens, plus 8,2%, 68,65. Tiens, on va en reparler justement de ces capitalisations qui sont en train de changer un petit peu de dimension. À la baisse, en revanche, Dassault Systèmes qui perd 5,5% à 18,69€. Ça y est, le jeu de massacre sur les sociétés informatiques reprend avec Mistral AI qui marque des points dans le domaine de l'industrie. Et ça, bah, ça fait du mal aux perspectives de Dassault Systèmes, évidemment. Pernod Ricard, moins 2,8%, 64,06. La plus forte baisse du SBF 120, elle est pour Atos aussi, moins 6,4%. 39,42€. Oui, le Fels, dites justement tous ces secteurs qui sont en train de changer complètement de dimension dans les small et mid cap. C'est un peu embêtant parce que l'autre jour on parlait de small et mid cap qui en sont plus vraiment. Quand on commence à parler des Exosens, des Exail Technologies qui étaient des toutes petites sociétés à l'origine puis qui sont en train d'exploser en bourse. Les Médincelles qui ont fait leur apparition d'un coup dans le SBF 120, on se dit boum! D'un coup, la santé, la défense, les semi-conducteurs, la tech, ça rend peut-être encore plus exigeant le métier de gérant dans ces small et mid-cap.
C'est vrai que le problème, c'est que le marché, sur ces marchés de small et mid-cap, c'est un peu ce qui se passe aussi sur les large cap. C'est le marché devenu très, très binaire. Il y a trois secteurs qui marchent depuis deux ans, c'est simple, c'est la défense, tout ce qui est lié à l'IA, donc les semi-conducteurs et l'électrification. Tout le reste, aujourd'hui, ce qu'on appelle le style qualité, vous avez des belles sociétés de fonds de portefeuille, type les L'Oréal, les Air Liquide, qui génèrent du cash flow année après année. En ce moment, plus personne n'en veut. Tout le monde est dans la thématique, ça monte, donc on est un peu, on sait l'expression FOMO, il faut être dedans. Aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est que vous prenez ces trois secteurs-là, si vous n'êtes pas dedans, bah vous avez des performances assez médiocres. Alors qu'il y a quand même pas mal de sociétés qui ont publié des bons chiffres, des bons résultats, mais en ce moment, il y a que le mot à la bouche pour ces valeurs-là. Le problème, c'est qu'elles ont tellement monté, donc ça devient des plus gros poids dans les indices. Donc les gens, en plus, les rachètent encore. Donc ça fait un effet d'entraînement qui est pas forcément très sain, notamment voilà dans les biotech, dans les Eutelsat, on parlait tout à l'heure, les Soitec. Et c'est vrai que maintenant, c'est redevenu des valeurs qui sont des gros poids dans les indices. Ouais. Donc ça distorde un peu les indices. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont complètement décorrélées de ces indices. Et c'est un peu compliqué pour nous en tant que gestion. Parce que forcément, nos clients nous regardent toujours, ah tiens, par rapport aux indices. Donc quand vous avez des stratégies de pure stock picking, plutôt de qualité, des valeurs plutôt de croissance défensive, donc voilà, il y a du LDC. Donc LDC, ça marche très très bien. Mais il y en a beaucoup d'autres qui sont comme ça. Nous, on aime beaucoup, par exemple, la thématique de la logistique, comme ID Logistique, comme Steph, qui sont des belles sociétés. ID Logistique a encore fait des publications juste stratosphériques sur le premier trimestre, notamment aux États-Unis. Ouais. Même la France n'avait pas à rougir. Et c'est des titres qui sont négatifs depuis le début de l'année. Ouais. Personne n'en veut. Les gens veulent, voilà. Vous avez cité la liste de valeurs là depuis le début de l'année, c'est stratosphérique parce que c'est des valeurs qui sont, quand je dis de qualité, c'est-à-dire que c'est des valeurs qui ne gagnent pas d'argent ou qui ne gèrent pas de free cash flow structurellement. Voilà, aujourd'hui, les belles valeurs fonds de portefeuille, les belles valeurs de bons pères de famille, comme on disait dans le passé, personne n'en veut en ce moment. Et c'est assez problématique, que ce soit dans les large cap comme dans les small et mid cap. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens sont là, ils veulent faire de la performance rapide, donc ils vont vers ces valeurs pour gagner de l'argent très vite. Et je trouve pas ça forcément très sain. Et c'est vrai qu'Alain le disait tout à l'heure, c'est la dérivée troisième. Voilà, on était en première division avec les Nvidia, deuxième division avec les très, ben voilà, les Micron, tout ça, SML, qui sont des très, très gros candidats. Et quand vous regardez, comme aux États-Unis, maintenant, il y a, je sais pas combien de clubs de semi-conducteurs en Thaïlande aussi, qui ont dépassé les milliards, 1000 milliards de
Trillion, ouais, même l'indice MSCI Emerging Market, il y a trois valeurs qui font plus d'un trillion.
C'est ça, avec
qui sont des Samsung.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le semi-conducteur, les gens oublient que c'est un marché ultra cyclique. Voilà. Donc ouais. aujourd'hui, les marges sont stratosphériques chez Nvidia, etc. On va voir quand les Chinois vont réussir à être tout aussi puissants avec des chips beaucoup moins puissants. Voilà. Pourquoi? Le pricing power perdra, la marge perdra. Donc vous avez beau avoir un PE pas cher, bah, si votre marge elle divise par un tiers ou par deux, bah, votre PE facial de 15-16 qui peut paraître pas cher, en fait finalement vous êtes 30 fois.
D'où ce problème de la fois de la surconcentration et à l'intérieur de cette superconcentration de la granularité.
Le lead parade peut changer très vite. Enfin, OpenAI, il y a un an, avant DeepSeek, c'était the one and only. Aujourd'hui, on se rend compte que d'abord, les LLM, c'est pas forcément le Graal, et qu'en plus, il y a des concurrents qui ont émergé. Donc, les choses peuvent arriver très vite. Je pense qu'en tant que gérant de small cap, parce que c'est aussi mon cas, il faut savoir de temps en temps ne pas céder aux modes. Typiquement, l'année dernière, au premier trimestre 25, il y avait une hausse phénoménale de Telsat sur des espoirs qu'il y aurait une galaxie Starlink européenne, etc. Alors que c'était déjà dans les tuyaux pour 2030. Moi, je persiste à penser que même si l'Europe essaye de privilégier sa solution, le mur de capex de cette société est tel que si on a un jour un truc souverain, ça sera payé par les États uniquement pour la défense, mais ça ne sera pas commercialisable. Alors, c'est vrai que récemment, là, on a dit, par exemple, que dans les partages de fréquences, Starlink ne pourrait pas tout utiliser, qu'il y aurait deux tiers qui seraient réservés à l'Europe. Alors, toute chose égale par ailleurs, c'est forcément une nouvelle favorable pour Eutelsat.
Bien sûr.
Mais il n'empêche que le mur d'investissement de cette société, quand on voit l'avance qu'ont les concurrents américains, et on ne parle même pas des Chinois, ça, je ne vois pas comment ils vont y arriver. Peut-être qu'il y aura un réseau, un LEO européen, mais il sera subventionné et il existera parce que l'Europe veut qu'il existe, mais ce n'est pas l'actionnaire qui va gagner de l'argent dans ce genre de truc. Vous voyez.
Non, bien sûr que non.
C'est un peu comme EDF dont on parlait tout à l'heure. La Cour des comptes, EDF a été nationalisée. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a un besoin d'investissement colossal dans les centrales nucléaires. Si ça avait été coté, on aurait dû faire des augmentations de capital régulières et dilutives que l'investisseur n'aurait pas apprécié, et même les marchés auraient dit qu'il y a trop de dettes par rapport au capital. Donc, ils l'ont nationalisé pour pouvoir la booster pour éventuellement faire du nucléaire ou pas. Mais en tout cas, c'est parce que ça ne pouvait plus passer par la bourse. Mais comment la Cour des comptes se plaigne, d'ailleurs.
Oui, mais on en revient justement à ce problème du CAPEX. C'est que, voilà, quand on s'appelle Nvidia, on peut investir tout et n'importe quoi.
Disons que c'est un peu le problème de la souveraineté. C'est-à-dire qu'il y a eu des thématiques souveraineté l'année dernière.
Voilà, exactement.
Par exemple, on pense à OVH. Évidemment, tout le monde aimerait bien qu'on ait un cloud souverain en Europe. Il y a quelques boîtes qui le font, mais OVH, quand on regarde d'où ils sont aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. J'ai du mal à penser siècle, qu'ils vont y arriver. Ou si on essaie de faire ce qu'il faut, on aura un truc au rabais européen qui fonctionnera peut-être à coup de subvention, mais pour l'actionnaire, je le sens pas.
Oui, de fait.
Mais c'est vrai que la grande différence par rapport aux sociétés américaines, c'est qu'elles génèrent du free cash flow positif, malgré leur capex. Ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les derniers investissements des hyperscalers sont au-dessus des free cash flow pour la première fois. Donc elles doivent trouver leur business model. On l'a vu sur la publication du premier trimestre que les free cash flow commencent à être là. Mais le problème de toutes ces sociétés françaises dont on parle, Eutelsat, c'est, je rappelle que le free cash flow, c'est après CapEx. Donc avec les murs de CapEx qu'il y a, Eutelsat ne gagnera jamais un centime. Et c'est vrai que les règles de bourse, toujours, n'oubliez pas que le reflet futur de la valorisation en bourse, c'est ses cash flows futurs. Donc des sociétés comme Eutelsat, Soitec, qui ont brûlé du cash que depuis des années, moi ça me fait une pensée à une autre valeur qui est très connue en France, qui s'appelle Atos. Atos qui n'a jamais généré de cash. Bien on sûr. A vu comment c'est fini. Donc c'est vrai que moi je dis attention à ce type de valeur.
Avec, Atos, encore le problème du... On est reparti dans le jeu de massacre... Sur les fabricants de logiciels pro, là, on a Mistral AI. Alors là, l'ennemi est intérieur.
Oui, ça se craque. Mais ça revient. Il y a eu un petit rebond la semaine dernière sur les valeurs de logiciels, mais on prend qu'elles restent vulnérables. Alors là encore, il va falloir trier entre celles qui ont une vraie position, qui exploitent des données, qui sont propriétaires. Ouais. Je pense que c'est comme SideTrade qui était très attaqué, qui a divisé par 3 pratiquement son cours de bourse, mais qui a réussi à montrer qu'en fait, ils maîtrisaient la donnée.
Bien sûr.
Et qu'un usage finalement assez modeste des GPU de Nvidia. En gros, ils vont dépenser 3-4 millions d'euros en GPU d'ici 2030, ce qui est rien par rapport à même à leur... Enfin, ils ne sont pas énormes, mais je veux dire, pour eux, ce n'est pas grand-chose. Donc, parce qu'ils vont exploiter des données localement, en consommant pas trop de données. En revanche, d'autres modèles, oui, peuvent être totalement disruptés. Et c'est là où il va falloir faire le tri.
Je suis d'accord. Mais Dassault Systèmes, par exemple, notamment son rôle dans l'automobile, dans l'aéronautique, etc. Le jour où Mistral AI arrivera à simuler aussi précisément que Dassault Systèmes des écoulements de fluides aérodynamiques... Bon, d'ici là, je pense que Dassault Systèmes serait plus enclin d'être l'acteur qui va prendre la main à l'intelligence artificielle pour lui dire « aide-moi à faire ça en mieux et en plus vite ».
Le problème de Dassault aujourd'hui, c'est qu'en fait, ils ont, je pense, les moyens de s'en sortir, mais ce truc est une nouveauté. Donc, il faut qu'ils adaptent leurs outils pour en tirer profit.
C'est ça.
Mais ça veut dire, dans un premier temps, pour eux, d'ailleurs, comme pour les hyperscalers, plus de capex pour essayer de réadapter le produit. Et du côté des clients, il y a forcément un peu d'attentisme, parce qu'on se dit, je vais peut-être, avant de me lancer dans une nouvelle suite logicielle, je vais peut-être attendre qu'ils arrivent avec une solution IA adaptée, ce qui pourra rebondir peut-être dans un ou deux ans, mais en attendant, ça pèse forcément.
Et c'est exactement ce qu'a dit SAP. Ils ont dit, ils ont fait tout leur grand route là devant tout le monde. Ils ont dit short time pain, long term gain. C'est-à-dire qu'au début, ils doivent l'adapter. Donc c'est vrai qu'une grande valeur comme SAP, qui a toutes les datas des clients avec le ERP, il a clairement dit qu'au terme,
ils sont au centre de tout.
Ils sont au centre de tout. Donc en fait, eux, ils ont loupé l'IA complètement. Donc ils vont dire qu'en fait, l'IA, ça sera du add-on. C'est-à-dire que vous allez intégrer l'IA, etc. Et en fait, ça va pas venir remplacer SAP. Parce que SAP, quand vous avez SAP, au moins, vous savez que c'est le sérieux du client, ça rassure, donc ça va être de l'add-on. Mais la vraie question à terme, c'est le business model. C'est si l'add-on est tout pris par les hyperscalers ou pour ceux qui font l'IA et SAP finalement jouent juste une petite couche classique, si le partage de valeur ne va plus autant chez SAP, c'est pour ça que ces valeurs-là dérèdent, parce que pourquoi les payer aussi cher? Mais voilà, en tout cas, je suis sûr que SAP va très bien s'en sortir sur moins long terme, mais avec des valorisations un peu plus faibles.